Les Voix de Service Magazine, mercredi 25 octobre. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
En fait, cette grande foule qui est réunie autour de moi, c'est-à-dire Daniel.
Oui, oui.
Bonjour, Serge qui est en vacances cette semaine. Ben aujourd'hui, vous allez nous parler de tout plein de choses, peut-être, puisqu'on
oui,
a plein
oui,
de
probablement. Oui, je vais vous parler en première partie du gala de la disque qui va avoir lieu ce week-end.
Ça s'en vient, ben oui.
Je vais vous parler aussi des Rolling Stones qui annoncent un nouvel album bientôt. Et la deuxième partie, je vous garde la surprise.
Ils en aiment ça. Mais de mon côté, je vais vous parler, je vais un petit peu piétiner vos plates-bandes encore une fois pour vous parler du leg de Gord Downie parce qu'on sait qu'il a été beaucoup inspiré par les Autochtones et les Premières Nations du Canada. Et puis, je vais vous parler du joug de la liberté. Le joug, là, ça, c'est ce mot qui s'écrit J-O-U-G et que mon fils m'a dit « Non, maman, on dit pas joug, on dit joug. »
OK, on ne sait jamais comment le prononcer.
Vous me reprendrez si jamais je fais quelques petites fautes. Le joug ou le joug. Ça dépend des dictionnaires, hein, la prononciation. Ouais. Bon, voici avec la prononciation classique.
C'est un mot qu'on devrait éviter, remplacer par un autre, moins compliqué.
Oui, mais c'est le titre de l'article que je vais vous lire tout à l'heure. Évidemment, quand on choisit un titre écrit, on ne pense pas au problème que ça va être de le prononcer. Mais c'est donc le titre que Sarah R. Champagne du Devoir a choisi pour son article « Les Premières Nations sous le joug de la liberté ». Donc, c'est un article qui nous parle d'un livre « Le piège de la liberté, les peuples autochtones dans l'engrenage des régimes coloniaux », publié dernièrement chez Boréal. La parole des chefs ordonnait le monde sans ordonner à personne. Et encore dans la même page, avec insistance, les chefs espéraient convaincre leurs compatriotes en palabrant et en argumentant, non pas en les contraignant par la force à suivre leurs commandements. L'envie pourrait prendre au lecteur d'envoyer ce livre, Le piège de la liberté, les peuples autochtones dans l'engrenage des régimes coloniaux, au président américain Donald Trump et à d'autres dirigeants de notre modernité désorientée. Ne cherchant pas à s'imposer comme des modèles à suivre, ces descriptions des chefferies autochtones par Denis Delage et Jean-Philippe Warren font plutôt partie d'un examen minutieux de la rencontre entre deux civilisations. Les deux éminents sociologues co-signent cet ouvrage méthodique où ils décrivent les logiques qui ont mené à l'écrasement et à l'expropriation des Premières Nations dans une collision brutale. Peu de fer, peu de feu au nord-est de l'Amérique ont été nécessaires pour subjuguer les premiers peuples de ce territoire. Français, Britanniques et Euro-Canadiens ont plutôt tendu, entre guillemets, le piège de la liberté. Ce piège, malgré d'héroïques résistances, glisse Denis Delage au téléphone, a fini par briser les peuples amérindiens, qui ne sont même pas aujourd'hui propriétaires de la terre en dessous d'eux. Une liberté entendue bien sûr comme celle des Blancs. On a cherché à ce que l'Indien jouisse de la liberté des bons enfants de Dieu et des sujets du roi. C'est toujours subjuguer, toujours sortir le sauvage de sa parenté, de sa communauté, de sa soumission aux esprits et aux chamans, ou bien de son état retardataire, moins productif, poursuit-il. Libéré de la misère et de la sauvagerie pour rapprocher bientôt des lumières de la pensée scientifique naissante, bref, de la civilisation. L'action colonisatrice des Français est tout sauf douce pour ces humains déjà libres d'une autre manière, d'une toute autre manière, qui connaissent peu la hiérarchie et encore moins la concentration de la richesse. Religieux, commerçants, représentants du roi, puis ceux de la monarchie parlementaire britannique bâtissent néanmoins chacun leur espace de tolérance en fonction de leur sphère d'activité. Nomme prudemment le professeur émérite à l'Université Laval pour mener à bien cette invasion de l'intérieur. La volonté est de faire disparaître l'Indien, de ne faire qu'un seul peuple, mais sans nécessairement éradiquer la différence, poursuit-il. Les Jésuites, convaincus qu'il est bon de réduire les Premières Nations petit à petit, tout en n'imposant pas de goût particulier ou de manière d'élever les enfants, par exemple. Ils diront « Tout est relatif, sauf Dieu ». Moi, j'aime cette phrase. Mais le mieux est de garder les Indiens devenus chrétiens car ils auront encore la combativité pour servir le roi. Donc, on voulait les changer pour les rendre plus comme nous, mais pas trop parce qu'il y avait, on reconnaissait quand même qu'il y avait des qualités. L'arrivée des Britanniques renforce encore davantage ce joug de la liberté. Le régime libéral implique que les rapports deviennent horizontaux. Les Autochtones doivent vivre selon des notions de propriété privée, de travail, d'habitudes industrieuses, d'éducation des enfants. L'assimilation devient plus totalitaire, l'aliénation plus absolue et le mode de vie est abandonné. On sait que les Anglais sont bons dans les dans la colonisation. Ils ont beaucoup d'expérience.
Je pense que c'était les Anglais et les Espagnols aussi. Je pense qu'ils ont réussi un peu mieux que les Français, vrai, finalement.
Les forces en présence, les avantages matériels et bientôt la distance aux religieux qui permettait l'émergence de la logique scientifique, entre autres, auront fait triompher le colonialisme qui a broyé dans ses rouages les Premières Nations sous couvert de les civiliser. Le livre constitue un implacable traité prouvant, s'il fallait encore en convaincre, que l'Autochtone n'a rien de cet être passif dépassé par les événements qu'il ne comprenait guère et qu'il maîtrisait plus mal encore, écrivent ses auteurs. Quoique abstrait par moments, un choix délibéré et avoué dès l'introduction afin de dépasser l'anecdote ethnographique, l'ouvrage est accessible pour qui cherche une compréhension plus profonde du legs colonial. Le miroir tendu par les deux sociologues renvoie aussi, surtout, l'image d'un monde occidental qui continue d'avaler. On utilise le regard vers le passé pour éclairer le présent. Ce qui donne du même coup l'envie de s'inspirer de la vision autochtone du monde avant la colonisation. Contrairement aux Autochtones qui essayaient de prévoir les conséquences de leurs gestes pour cette génération, les trois précédentes et les quatre suivantes, nos sociétés ont oublié ce temps long, dit Delage, de même que cette idée de prendre en compte la nature, le grand cercle dans lequel nous sommes inscrits, parce que le maintien de la communauté est plus important que son éclatement. Alors, je ne sais pas si j'ai mentionné, mais c'est un article qui était tiré du Devoir et paru le 21 octobre.
Justement, j'ai un article qui vient du Devoir aussi.
Quel beau
hasard,
lien.
Oui.
Quel hasard.
C'est un article qui est paru le 21 octobre et le titre est « La disque, un gala et ses désaccords ». C'est pour l'avant-veille de l'Halloween, le 39e gala de la disque, c'est Félix et ses remerciements nerveux. Mais ce que les organisateurs appellent la grande fête de la musique est-il représentatif de ce qui se fait en musique au Québec? Pas nécessairement, disent certains. Regard. Quelques chiffres pour situer. Inscrire un album au gala des prix Juno coûte 65 $ pour les non-membres et 40 $ pour ceux qui sont membres. Les prix Juno, c'est musique.
C'est l'équivalent, mais au Canada.
C'est ça, au Canada anglais. Surtout. La même chose au gala de la disque, il faut être membre, ce qui coûte entre 1 000 et 1 500 $ par année, après quoi on déboursera 95 $ pour recenser un disque. Quant aux non-membres, ils peuvent tenter leur chance, mais doivent payer un coût de recensement équivalent aux frais d'adhésion généraux. Et par la suite, chaque album qu'ils inscriront coûtera le double des 95 $ exigés aux membres. C'est quand même pas des montants exorbitants, je dirais, mais bon. La question du coût d'inscription peut paraître futile, mais elle vient rappeler que les gagnants de la disque, qui est l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, sont choisis parmi ceux qui s'inscrivent. C'est logique, certes, mais dans un marché en mutation où les productions indépendantes abondent, la question du prix peut constituer un frein pour des artistes producteurs qui ne disposent pas d'une maison de disque établie derrière eux. C'est là une des distorsions qui affecte la disque par rapport au Juno, croit Ghislain Poirier. C'est un peu ce que l'auteur-compositrice-interprète et productrice Andréane A. Mallette a compris en septembre lorsque les nominations pour la chanson de l'année ont été dévoilées. Elle, dont la pièce « Fou » a obtenu un immense succès, a été étonnée de voir qu'elle n'était pas parmi les 10 finalistes d'une catégorie pourtant censée récompenser la stricte popularité.
Mais oui, on pourrait s'y attendre, effectivement.
« Fou » était admissible, la chanson était d'ailleurs sur la liste des 40 chansons retenues selon leur liste de critères, que je trouve très bon, dit-elle en entretien. Ces pré-finalistes sont déterminés à partir d'une compilation de 5 palmarès, dont un lié aux écoutes en continu, le streaming. Par la suite, La liste de 40 chansons est réduite à 10 au moyen d'un vote égal entre les quelques 700 membres de l'Académie de la Disque. Évidemment, ils sont presque aussi nombreux que ceux qui ont quelque chose à présenter.
Oui, c'est ça.
Et des citoyens consultés par une firme de sondage. Puis le grand public vote parmi les finalistes, 50% du résultat. Alors que l'Académie refait aussi l'exercice pour l'autre moitié du 50%. L'Académie regroupe les membres de la disque et les différents jurés, dont les journalistes. La gauche et la droite, ce positionnement autrement politique revient souvent dans les conversations autour du marché de la musique. La musique, le marché de la musique québécois, oui, le marché québécois de la musique.
Mm-hmm.
J'allais dire québécoise, mais bon. La gauche serait la chanson de création et des artistes moins grand public, alors que la droite désignerait le monde de la pop et des radios commerciales. La directrice générale de la disque, Solange Drouin, s'étonnait mercredi d'entendre encore le discours qui voudrait que ce soit la grosse industrie contre les artistes autoproducteurs, comme s'il fallait opposer les deux. Audiogramme est la plus grande compagnie au Québec avec une quinzaine d'employés et ils n'ont que deux votes pour le gala, comme tout le monde. Les trois quarts de nos membres ont un seul employé. Madame Drouin défend la politique tarifaire du gala en faisant valoir que l'argent sert à financer toutes les activités de la disque, dont son action politique pour obtenir de l'aide des gouvernements. Les gens qui adhèrent à la disque le font pour l'ensemble de l'œuvre et des dossiers, dit-elle. Ce ne serait pas juste si des non-membres pouvaient profiter de la visibilité du gala sans soutenir la structure qui permet tout ça, estime la directrice générale. Mais cela n'amène-t-il pas certains à ne pas participer? J'ai quand même l'impression que l'argent qu'on demande représente un bon investissement, répond-elle. On fait beaucoup de promotions autour des finalistes, c'est une grosse vitrine, et il me semble qu'on est flexible pour les marchés de niche. En fait, quand on regarde ça, finalement, aujourd'hui, les artistes québécois ont tellement de difficultés à se positionner, on les entend pas beaucoup à la radio, il y a beaucoup de musique anglophone. Peut-être que finalement, le gala de la disque, c'est seulement une fois par année, mais effectivement, ça leur donne une autre vitrine.
Oui, c'est vrai.
Belle façon de s'exposer.
Définitivement une vitrine.
Une publicité qui, finalement, leur coûte pas si cher que ça. Elle pointe l'article 9 de la réglementation des Félix qui permet aux petites compagnies non membres de payer 190$ pour inscrire un album sans avoir à acquitter aussi l'équivalent des frais d'adhésion à la disque. Mais pour avoir droit à cette clause, la compagnie ne doit pas avoir produit plus de 3 disques dans l'année, non plus qu'avoir vendu plus de 5000 exemplaires au total. Dans les marchés de niche, des albums qui ne vendent pas 1000 exemplaires, c'est la majorité, dit Solange Drouin. Quant au système de votation, Mme Drouin juge important de tenir compte, selon les catégories, à la fois de l'impact public d'un album et de l'opinion des jurés qui se concentrent sur la qualité. Si des gens ont été touchés par une chanson ou ont posé un geste d'achat, ça veut bien dire quelque chose. Mais je remarque qu'on a des critiques à gauche et à droite. Ça doit être qu'on n'est pas si loin de l'équilibre, soutient-elle.
Let's go.
Il fallait bien qu'on parle de la disque et des artistes francophones pour écouter les Rolling Stones avec The Last Time, mais ce n'est pas un choix anodin, n'est-il pas, Daniel?
N'est-ce pas? J'ai un article justement qui annonce que les Rolling Stones annoncent un nouvel album. Et en passant, la pièce qu'on vient d'entendre, The Last Time, c'était leur première qu'ils ont écrite ensemble, apparemment. Jagger et Richards, il y a tellement de choses à dire sur cette chanson-là. Il y avait une version qui avait été refaite par leur gérant à l'époque, je ne sais pas en quelle année, un peu plus tard, et cette version-là avait été reprise, copiée, en fait, en tout cas c'est ce que le juge a décidé, par le groupe The Verve, la chanson Bittersweet Symphony. Ils ont été obligés d'écrire sur leur chanson que ça avait été écrit aussi, co-écrit par Jagger Richards, parce que ça vaut la peine d'aller écouter The Last Time et la version Andrew Oldham. Dans un arrangement juste instrumental et on reconnaît exactement
la petite mélodie,
Bittersweet Symphony. C'est l'arrangement, c'est comme ils ont pris un sample de ça puis ils ont refait la chanson par-dessus. Et voilà, donc pour l'histoire. Et c'est ça, c'est un article du Rolling Stone Magazine. Entre 1963 et 1965, les Rolling Stones ont été conviés par la BBC à enregistrer des sessions live. À l'époque, le groupe est encore au début de sa carrière et fait partie des grands talents émergents de la scène musicale britannique. Leurs sessions sont diffusées dans les années 60 dans plusieurs émissions britanniques comme le Saturday Club, Top Gear, Rhythm and Blues, mais ces enregistrements, aujourd'hui mythiques, n'avaient jamais été pressés sur album. Les Rolling Stones, qui seront de passage à Paris pour trois dates, les 19, 20 et 25 octobre prochains, donc 25 c'est aujourd'hui, si vous avez encore le temps, si vous voulez aller à Paris ce soir, ont décidé de ressortir les enregistrements de leur carton et de les graver en version CD. Ce nouvel opus sera baptisé On Air, référence directe au logo lumineux des studios de télévision ou de radio. Ce double album contiendra 8 enregistrements jamais commercialisés auparavant, ainsi que des versions inédites des plus grands tubes des Stones. L'occasion également de redécouvrir l'amour de la bande de Jagger Richards pour le blues. Et j'ai regardé la liste, la tracklist en fait, il y a 18 pièces sur le premier CD et 14 sur l'autre. Et je crois, à première vue, il y a 4 ou 5 chansons qui ont été écrites par Jagger Richards. Les autres, c'est des chansons de Chuck Berry, de Muddy Waters. Et tenez-vous bien, je pense qu'il y a peut-être du monde qui ne savait pas ça encore. Une qui avait été écrite par Lennon McCartney.
Ah,
I Wanna Be Your Man, les Rolling Stones ont été les premiers. Ils l'ont enregistré avant les Beatles. Suite à une rencontre, Lennon leur avait dit, je cherchais une nouvelle chanson, je vous donne celle-là, voilà. Ils ont sorti la même année.
Eh ben.
Et alors, quand on parlait de rivalité Beatles-Rolling Stones, voilà.
Et parlant de rivalité, nous, on a une petite rivalité anglais-français dans notre beau pays ici. Alors, je vous parle de Schefferville, un carrefour multilingue en pleine taïga. C'est un article qui a été publié le 20 octobre, signé Louis Garneau. Isolé au beau milieu de la taïga québécoise, Schefferville n'est pas une municipalité comme les autres. La cohabitation de 4 langues marque le paysage linguistique de la ville, à cheval entre le Québec et le Labrador. Les Innus de Matimécouche, Lac John, s'expriment plus facilement en français. Les Naskapis de Kawawachikamach s'expriment davantage en anglais. À 18 ans, Kirsten Wapan utilise les 4 langues du nord-est québécois, le français, l'anglais, l'innu et le Naskapi. J'ai appris l'innu ici, à l'école, au primaire, et après ça, il nous laisse le pratiquer durant toute notre vie. Le Naskapi, je l'ai appris par moi-même, juste en l'écoutant. Ça, c'est Kirsten Wapan McKenzie qui dit ça. Son cas n'est pas rare. Près de 80 % de la population de Schefferville est bilingue et plus de 20 % trilingue. Malgré cela, les malentendus sont monnaie courante. Je travaillais avec du monde et ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je comprends pas ce qu'il me dit et il me comprend pas. C'est quoi que tu veux lui dire? Moi, je veux lui dire. Et puis, à un moment donné, on se comprenait et on a fait la job. Pour Tata Steel, le principal employeur, le défi de gérer 4 langues et 4 cultures se retrouve au centre des préoccupations en ressources humaines. Les superviseurs sur le terrain assurent les opérations en plusieurs langues pour gérer les 700 employés de la mine et assurer leur sécurité. On voit une photo qui illustre l'article Tata Steel Minerals Canada Limited et on voit un signe qui est dans les 4 langues, une qui est carrément dans un alphabet que je ne connais pas. Et après ça, on a Quickway, welcome et bienvenue. Alors, je le dis en français et en anglais pour que tout le monde comprenne. Et ensuite, je le dis en montagnais pour que les gars aussi comprennent. Mm-hmm. Ça, c'est Frédéric Clooney. Je ne sais pas s'il est parent avec Georges. J'ai quand même un petit air. Qui est superviseur de station pour Tata Steel. Comme la compagnie Tata Steel est enregistrée en Inde, elle emploie plusieurs travailleurs qui parlent l'hindi. Parmi les travailleurs qui passent à Schefferville, on retrouve des professeurs maghrébins, des ouvriers cris et même des Inuits. C'est une force chez nous d'avoir cette diversité culturelle parce que ça enrichit l'expérience de tous les travailleurs et c'est ce qui est intéressant ici, nous dit Armand McKenzie, vice-président des affaires intergouvernementales et relations publiques chez Tata Steel. Tous amènent leurs expressions qui tombent dans l'oreille des résidents comme Kiston ou Apan McKenzie. Dans certaines communautés, ils commencent à perdre leur langue, mais ici, on devrait être bon pour garder notre langue. Ma culture, c'est l'inou. Je garde mon standard inou, je suis inou, et je m'adapte bien avec les Français et les Anglais pareil, assure Frédéric Clooney. Alors, peut-être qu'on devrait s'inspirer de petits endroits comme Schefferville, mais c'est pas parce qu'on est très loin qu'on n'est pas multiculturel.
On peut apprendre plusieurs langues puis conserver celle qu'on... notre langue maternelle.
Et chaque langue qu'on apprend est une nouvelle richesse.
Absolument. Hey, quelque chose que j'aurais aimé vous parler la semaine dernière parce que c'est un événement qui a eu lieu les 21 et 22 octobre, mais j'ai envie de vous en parler quand même parce que j'ai trouvé ça intéressant. Harry Potter, le film concert.
Le film concert.
Ouais, c'est un concept de plus en plus populaire, une projection sur écran géant d'un film culte en présence d'un orchestre qui joue en direct la partition musicale originale. On pense à Back to the Future, Amadeus, Gladiator, E.T. ou encore The Godfather. Après une première projection l'an dernier du premier volet de la série Harry Potter à l'École des sorciers, le producteur torontois, Attila Glatz produit sa série avec Harry Potter et la Chambre des secrets accompagné d'un orchestre complet qui interprétera la musique de John Williams.
Wow.
Le deuxième volet de la série, sorti en salle il y a déjà 15 ans, dans lequel Harry, Ron et Hermione tentent de sauver Poudlard, sera projeté sur un écran de 40 pieds tandis que l'orchestre formé d'environ 85 musiciens sera dirigé par la chef Sarah Hicks. Et ça, c'était les 21 et 22 octobre, et j'aurais aimé ça y aller, mais non. Mais je voulais vous en parler quand même, parce que je trouve ça intéressant. Ça me fait penser un peu à l'époque du cinéma muet, où il y avait juste un pianiste en avant.
Oui, c'est vrai, mais il y aura peut-être une captation. Peut-être. Ça serait le fun d'entendre
mais
la musique.
Mais il va sûrement avoir un retour de ça éventuellement, et là, ça m'intéresse.
Ah, ça donne envie d'aller au cinéma. Et parlant de littérature jeunesse, je vous parle de trottinette. Bon, le lien est un peu boiteux.
Quand même.
Imaginez tomber sur ceci en vous rendant au bureau ce matin, la gang des trottinettes. Qui n'a jamais esquissé un rictus croisant un jeune sur la route avec son petit deux roues? À Brisbane, par contre, les automobilistes ont perdu le sourire ce dimanche face à un chaos organisé, le bien nommé Street Jam. Il s'agit d'une déferlante d'ados à trottinette qui se déplace dangereusement à contresens et se faufile entre les voitures aux grands dames de la police locale et j'ai envie d'ajouter de leur mère,
oui,
Colline, qui a dû intervenir, donc la police locale, non pas leur mère, parfois de façon musclée. De jeunes vedettes d'Instagram et de YouTube avaient initié cette quatrième édition. Aucune poursuite judiciaire n'aurait toutefois été lancée, mais Colin, une semaine pas de sortie, là, ou plutôt pas de YouTube,
mais
privé de YouTube pendant... Ben, c'est ça, ils vont, évidemment, c'est la nouvelle mode, on fait des choses folles, puis on se filme.
Faut faire des choses dangereuses, oui, sinon c'est pas...
Alors, on va mettre ça dans la catégorie « Il faut que jeunesse se passe ». Alors, c'est comme ça qu'on va terminer cette première partie de notre émission « Les voix de service magazine » 25 octobre et on se retrouve après la pause.
Pas d'alcool, pas de tabac. Va rester tranquille, va payer mes billes. M'en va apprendre l'anglais, m'en l'apprendre pour de vrai. Faut être un bon gars. Pas d'alcool, pas de tabac. M'en mettre mes bobettes, m'en lire la gazette. M'en checker les sports, m'en compter les morts. M'en passer mon check-up, m'en va faire mon ketchup. On va voir ce qu'on va voir. En six mois, quand je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'a avoir l'esprit d'équipe, impliquer toute l'équipe. M'a cramper en masse, m'a me tailler une place. Quand je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. M'a gravir les échelons, m'a comprendre mon patron. M'a faire un semblant qui est intéressant. L'argent va rentrer, pas trop trop, mais c'est aidé. Ma photo laminée, l'employé de l'année. Quand je vais être un bon gars, m'en va les inviter, m'en va faire un party. Des sushis, des trempettes, amène-en mon amec. Moment déboucher une fois n'est pas coutume. Voilà, tout le monde va se mettre, tout le monde va se mettre à parler. BMW, CLSC, TP4, IBM, TPS, PME, PDG, OCQ, OLP, IGA. Et moi, si mon bord m'a tombé dans le port. À 11h15, m'a écrit CDA, m'a sauté dans mon char, m'a descendu à Val d'Or. Bon, ben là, ça va faire. Dans l'enfer, m'a flambé ma paye, m'a allé vendre des bouteilles, m'a roulé mon journal, m'a collé l'orignal, m'a viré sur le top, pas de cadran, pas de capote. M'a trouvé mon nom tatoué sur son front, elle va dire enfin un bon gars. Après ça, je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac. Rester tranquille, m'a payer mes billes. M'en va apprendre l'anglais, m'en l'apprendre pour de vrai. Oh, sports, math and blood. Ils vont m'aimer en érode. Excellent citoyen, pas parfait mais pas loin. M'en manger du poisson, m'en faire du coup de fond. M'en m'acheter des records de Michel Rivard. M'en faire un semblant, c'est intéressant. Quand je vais être un bon gars, pas d'alcool, pas de tabac.
On aura reconnu le chant du bon gars, le bon gars, donc une pièce à l'origine par Richard Desjardins. C'était repris ici par le chanteur Inu Mathieu. C'est un extrait de l'album compilation hommage à Desjardins qui est paru plus tôt cette année. Mathieu étant un jeune auteur, compositeur, interprète originaire de la communauté de Manitoutenam. qui est sur la Côte-Nord.
Hey, il faut pas dire ça à Richard Desjardins, là, mais je pense que je préfère cette version-là. Je vais aller acheter l'album.
On ne dirait pas. On espère qu'il n'écoute pas, président.
Ben, pour faire un lien, je vais vous parler des peuples, peut-être pas des peuples innus, mais des peuples autochtones. Donc, mon article « Le legs de Gord Downey, un travail de réconciliation avec les peuples autochtones », c'est un article qui a été publié le 18 octobre et qui est signé Philippe de Montigny. C'est, je l'ai trouvé sur mon site fétiche, ici, nord de l'Ontario. Enfin, ici, Radio-Canada, tout le pays, mais là, ici, c'est nord de l'Ontario. Mort à 53 ans, le chanteur du groupe de Tragically Hip, Gord Downey, c'est dur à
ça
dire, hein?
Mal, oui, de Tragically. D'ailleurs, c'est un drôle de nom. Tragically Hip.
Oui, je pense que c'était voulu.
Tragiquement Hip.
Oui, c'est ça, c'est un petit... comment on appelle ça? Pas un oxymoron, mais non, c'est le con.
Je me prononcerai pas.
Alors, donc, Gord Downey laisse derrière lui des projets qui ont pour but de favoriser le dialogue avec les Premières Nations. Pour son album solo Secret Path, le chanteur s'est inspiré de l'histoire de Chaney Wenjack, un jeune autochtone mort à 12 ans après s'être échappé en 1966 d'un pensionnat situé près de Kenora dans le nord-ouest de l'Ontario. Gord Downey a passé du temps avec la famille Wenjack pour en apprendre davantage sur les abus subis par les élèves autochtones dans les écoles résidentielles. « Le Canada n'est pas le Canada », soutenait-il. « Nous ne sommes pas dans le pays où nous croyons être ». Mon cher ami a éveillé le pays l'an dernier, avec son appel à l'action et son exposé des vérités sombres dans ce pays, disait Alvin Fiddler, grand chef de la nation Anishinaabe Aski. Les recettes, tirées des ventes de l'album Secret Path et du roman illustré du même nom, vont au Centre national pour la vérité et la réconciliation de l'Université du Manitoba. Depuis le lancement du projet en septembre 2016, l'organisme a remarqué une forte hausse en dons. Nous avons reçu des centaines de dons allant de 20 à 50 $ et parfois plus encore. Nous lui sommes très reconnaissants, affirme le directeur du centre, Ryan Moran. Gord Downey et The Tragically Hip ont aussi séjourné dans de petites communautés oubliées par la plupart des artistes. Le groupe a notamment joué dans le gymnase d'une école de la Première Nation Fort Albany en 2012. Leurs prestations célébraient la culture Cree et la vie dans le Nord ontarien. De plus, en novembre dernier, Gord Downey s'est allié à un leader autochtone pour lancer le projet Legacy Room, qui vise à encourager les entreprises canadiennes, notamment du secteur hôtelier, à offrir des espaces où sont abordés des enjeux touchant les communautés autochtones. Le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, se désole de la mort du chanteur qui a tant fait pour nous. M. Bellegarde se souvient de la cérémonie où Gord Downey a reçu son nom autochtone. Voulez-vous essayer de deviner son nom autochtone?
J'ai aucune espèce d'idée.
Celui qui marche parmi les étoiles.
OK. Et ça se prononce comment?
Il ne s'est pas dit. Okay. Heureusement. Je ne peux pas être obligée de me couvrir de ridicule. Donc, pour honorer tout ce qu'il a fait, la cérémonie pour honorer tout ce qu'il a fait pour les peuples autochtones. Investir autant de son temps pour notre cause alors qu'il luttait contre ses propres problèmes de santé, hein, déjà à l'époque, on le sait. « Nous devions faire quelque chose pour honorer cet homme », donc disait Perry Bellegarde. Le premier ministre Justin Trudeau lui a aussi souligné les contributions de Gord Downey pour les communautés autochtones lors d'une conférence de presse mercredi matin. Il peinait à retenir ses larmes en parlant de l'homme. « Il savait que nous devions être mieux encore comme pays, et c'est pourquoi il a voué les dernières années de sa vie à Chaney Wenjack et à la réconciliation. C'est quelque chose qui m'a certainement inspiré et donné de la force. » Le chef Bellegarde estime que toutes les actions de Gord Downey, petites et grandes, ont éveillé les Canadiens et les gouvernements au besoin de travailler ensemble vers la réconciliation. Son impact survivra, sans l'ombre d'un doute, bien au-delà de son temps sur cette terre, conclut-il. Et je pense que ce que je trouve le plus dommage, c'est que, pour ma part, du moins, j'ai connu Tragically Hip quand on a appris que Gord Downey avait le cancer. Ouais, je veux dire, je connaissais le nom, mais la musique, j'avais pas... on l'entend pas ici à la radio.
Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Ça ne jouait pas beaucoup à la radio et surtout peut-être pas beaucoup au Québec.
C'est une superbe représentation des deux solitudes, moi, je trouve.
Ouais. Peut-être que si vous écoutiez plus des postes comme Show FM, vous l'auriez entendu un peu plus.
Oui, j'écoute Radio-Canada.
C'est l'endroit où ça jouait. Et moi, justement, je vous parle de...
Show FM?
Presque. C'est très relié. L'histoire d'un mythe. Un article est paru dans le Rolling Stone la semaine dernière, le 14 octobre. Stairway to Heaven, l'histoire d'un mythe.
Hey boy.
La chanson qu'on ne veut plus entendre pour la plupart du monde, mais qui a toute une histoire. Fer de lance de l'album Led Zeppelin IV, le monumental Stairway to Heaven a depuis longtemps décroché les étoiles au panthéon du rock. Retour sur l'une des chansons les plus emblématiques du groupe de Page and Plant. Demandez à n'importe quel amateur de rock quelle est la première chanson de Led Zeppelin qui lui vient à l'esprit, hormis l'inévitable Whole Lotta Love, et invariablement, il vous citera Stairway to Heaven. Demandez à Robert Plant quelle est la chanson de son ex-groupe qui lui sort par les trous de nez, et 9 fois sur 10, il vous répondra Stairway to Heaven. Tapez le mot Stairway sur Internet et immanquablement, vous tomberez sur cette chanson. Une chanson sur laquelle on a tout dit et n'importe quoi. Mystique, satanisme, subliminal, prétentieuse, plagiaire. Stairway to Heaven, ou le parfait concentré de toutes les sources musicales auxquelles la musique rock s'est toujours abreuvée. L'histoire commence au fond de la campagne galloise, dans un cottage du 18e siècle, baptisé... Je ne sais jamais comment prononcer ce mot-là. C'est d'ailleurs le titre d'une de leurs chansons. Ça s'écrit Brown, B-R-O-N, tiret, Y-R-A-U-R. Brown, Ear, R, je ne sais pas.
Peut-être qu'il faut la rugir,
faut
cette
chanson-là. Faut juste les plier. C'est dans cette ancienne maison de vacances de la famille Plant, une masure sans eau ni électricité, que Robert et Jimmy se retrouvent au printemps 1970, histoire de se ressourcer après un périple américain exténuant. Dans ce décor rustique, les deux hommes esquissent les prémices de leur prochain album. Page a dans sa besace des bouts de musique qu'il joue à la guitare acoustique. Parmi ceux-ci, une intro en arpège fait dresser l'oreille à Plant. Mais ce n'est que plus tard, devant le groupe réuni à Headley Grange, que le puzzle va prendre forme. Un soir, devant un feu de cheminée, Plant commence à griffonner les paroles. Il dit « Ma main s'est mise à écrire toute seule, presque malgré moi, et en quelques minutes, j'avais près de 80% du texte. » There's a lady who's sure all that glitters is gold. C'est le début de la chanson. Mm-hmm. Le début de la chanson semble évoquer une femme cynique qui, bien qu'elle fût comblée et obtienne tout ce qu'elle désire, n'offre en retour aucune attention ni considération. Plus tard, Plant dira qu'il a été inspiré par la lecture d'un bouquin du folkloriste écossais Lewis Spence intitulé The Magic Arts in Celtic ou Celtic. J'ai jamais su comment ça se prononce.
Celtic, je pense. Ouais.
Celtic Britain ou Celtic
en
Britain.
En fait, en français, c'est Celtic.
Ouais, en tout cas.
Les deux sont bons.
On aura compris. Et il refusera de donner d'autres explications sur le sens du texte, affirmant que chacun peut y trouver ce qu'il veut selon les périodes de sa vie. De fins exégètes y dénicheront aussi quelques allusions au Seigneur des Anneaux de Tolkien, mais peu importe. L'échelle paradisiaque demeurera mystérieuse et c'est tant mieux. Car c'est surtout la musique qui retient l'attention. Après une ouverture en arpège folk ornée de
c'est un instrument de musique.
L'entrée du chant et une rythmique jouée à la 12 cordes, la mélodie change brusquement avec l'irruption de la batterie qui précède un solo de guitare électrique, puis une partie hard rock avant les mesures finales où seule résonne la voix de Plant. Quant au solo légendaire, joué non pas sur sa rituelle Gibson, mais sur une Telecaster offerte par Jeff Beck, Page a dû enregistrer 3 versions différentes avant de choisir la meilleure. Et d'ailleurs, c'est probablement la seule fois qu'il l'a joué, parce que si on écoute des enregistrements live de Led Zeppelin, le solo est jamais pareil d'une fois à l'autre. Pour la petite histoire, j'ai vu Led Zeppelin live au Forum de Montréal en 1970.
Wow. Ça trahit un l'année peu mon âge. L'année de ma naissance.
Et c'était l'année justement où, je dis 70, c'est pas vrai, je pense que c'est peut-être 71. En tout cas, c'est l'année où ils ont fait la tournée pour présenter cet album-là. Et ma première déception, effectivement, de petit jeune que j'étais, c'est pourquoi il ne joue pas pareil?
C'était pas pareil comme sur l'album. Et la première fois que ça arrive, ça nous déstabilise toujours. On a l'impression qu'ils vont toujours la chanter exactement pareil.
Après, on se dit, il l'a enregistré vite en studio, puis après, il y a eu d'autres idées. Voilà. Donc, les sessions débutèrent en décembre 1970 au Basing Street Studios d'Ireland, à Notting Hill, avec l'ingénieur du son Andy Jones. L'album, produit par Page avec sa pochette bucolique au fagot, fut publié le 8 novembre 71. Donc, je les ai pas vus en 70. C'est probablement 71 ou 72. Curieusement, seul y est imprimé le texte de Stairway to Heaven. Malgré les demandes d'Atlantic, Le groupe refusa de sortir la chanson en single. Furent pressés quelques exemplaires promo destinés aux radios, qui deviennent des pièces de collection aujourd'hui. Stairway to Heaven fut joué pour la première fois en public en mars 1971 à Belfast, alors que les émeutes battaient leur plein dans les rues. Selon le bassiste John Paul Jones, les spectateurs présents ne manifestèrent qu'un intérêt poli, attendant visiblement les morceaux connus. Imaginez-vous, aujourd'hui. Bon, si elle emporta un succès immédiat, offrant à l'album des ventes records, la chanson vécut ensuite une existence mouvementée. En 1982, le télévangéliste américain Paul Crouch prétendit que le morceau contenait des messages subliminaux à la gloire de Satan, perceptibles uniquement quand on l'écoutait à l'envers. Moi, j'ai essayé, puis ça me donne mal à la tête. Écoutez ça. Je fais plus jamais
ça. Ça, c'est peut-être le quelques joints que vous aviez fumé avant.
Non, puis... c'est debout sur la tête, ça me fait pas. Une assertion d'autant plus crédible pour certains que Jimmy Page, amateur de sciences occultes, n'avait jamais caché son admiration pour l'écrivain controversé Aleister Crowley, allant jusqu'à acquérir son ancien manoir sur les rives du Loch Ness. Restait pour le Pékin moyen à essayer d'écouter la chanson à l'envers, périlleux exploit à l'époque des platines vinyles. Face à la rumeur, Robert Plant se contentera de répondre que Stairway to Heaven avait été écrit avec les meilleures intentions du monde et que coller des messages cachés n'était pas sa conception de la musique. Autre accusation, celle d'avoir plagié l'intro sur un instrumental du groupe Spirit intitulé Taurus. L'année passée, on en avait parlé.
Oui, c'est vrai.
Si Jimmy Page continue à affirmer que la chanson représente pour lui la quintessence de Led Zeppelin, Robert Plant, lui, a toujours renaclé à l'interpréter depuis la séparation du groupe. Rares exceptions, le Live Aid de 1985 et le 45e anniversaire du label Atlantic 3 ans plus tard. Si, grâce à ce morceau de paradis, Led Zepp a atteint le Nirvana, l'échelle semble désormais tirée. D'ailleurs, il y avait un film dans les années 80 sur un faux groupe rock. S'appelait Spinal Tap. Et dans le film,
je me souviens de ça.
Dans le film, les gars vont dans un magasin d'instruments de musique, puis dans le département des guitares, il y a un cercle rouge avec une barre rouge. Là. Interdiction de jouer Stairway to Heaven. C'était déjà brûlé.
Oh là là. C'est une belle chanson pour
toi. Oui, quand même. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my own man looks good. Wednesday just don't go. Fine tonight. Connaissez-vous George Young? Le nom ne vous dit probablement rien.
Non.
Et c'était le compositeur et chanteur du groupe Easy Beat, un groupe australien. Et la pièce qu'on vient d'entendre, ça s'appelait Friday on My Mind. Ça a été leur plus gros hit. Et George Young, qui était aussi le mentor d'AC/DC, est décédé cette semaine. George Young, frère de Angus et Malcolm Young, est décédé à l'âge de 70 ans. Avec les Easy Beats, George Young était une star internationale. Auprès de ses frères Angus et Malcolm Young, il était un mentor irremplaçable. Le compositeur et musicien australien est décédé à l'âge de 70 ans. La triste nouvelle a été communiquée par le groupe de hard rock sur ses réseaux sociaux. C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons la disparition de notre cher frère et mentor, George Young. Sans son aide et ses conseils, AC/DC n'aurait pas vu le jour. En tant que musicien, compositeur, producteur, conseiller et plus encore, il était l'homme le plus dévoué et professionnel que vous connaissez. En tant que frère, vous ne pouviez pas demander mieux. Pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il nous a donné, nous garderons un souvenir reconnaissant. Il restera toujours près de notre cœur. C'est dans les années 60 que le petit Écossais arrivé dans sa jeunesse en Australie accède au statut de star. Membre du groupe The Easy Beats, il coécrit le célèbre Friday on My Mind qu'on vient d'entendre avec son acolyte de toujours Harry Vanda. La chanson, sortie le 17 novembre 1966, devient rapidement un tube planétaire, reprise entre autres par David Bowie ou Bruce Springsteen sur son High Hopes Tour. Elle est aujourd'hui inscrite au panthéon de la pop 60s. Par la suite, George Young continuera de signer des tubes, toujours accompagné de Vanda. Et écoutez bien celle-là, c'est plutôt surprenante. Pour John Paul Young, il signera le morceau Love is in the Air, succès de l'année 1977. Souvenez de Love is in the Air, gros succès ouais, disco ben oui. De Martin Stevens chez nous. Très différent de AC/DC ou Easy Beat.
Quand même, oui, quand même.
Mais c'est surtout pour son implication aux côtés de ses frères que George Young est connu aujourd'hui. Le musicien a produit de nombreux albums d'AC/DC. Constamment dans l'ombre, il a aidé et participé à l'émergence du groupe d'Angus et Malcolm. Parmi les albums qu'il a produits, on retrouve High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap et Let There Be Rock.
Bon, j'essaierai pas de faire de lien avec l'article que je vais vous lire, là, parce que... Ben, je vais parler de musiciens,
bon, quand
mais
même,
très brièvement, très, très brièvement. Alors, je parle de la mobilisation pour offrir une pierre tombale à un artiste sans-abri d'Edmonton.
Ben, il y a d'autres liens, George Young qui vient de décéder.
Ah ben oui, c'est quand vrai, même. Effectivement, il y a le décès. C'est une amie de l'artiste itinérant Sterling Gauthier qui redouble d'efforts pour rendre son lieu de sépulture visible. Il est mort il y a déjà 9 mois et n'a toujours pas de pierre tombale. À chacun de ses passages au cimetière, Deb Cooper se désole en voyant que rien ne marque l'espace occupé par les cendres de Sterling Gauthier, sinon les fleurs qu'elle y a plantées. Ça me fait mal, le lieu semble vide. L'artiste aux racines autochtones a vécu et est mort dans les rues d'Edmonton après s'être fait connaître pour ses œuvres qu'il vendait un peu partout en ville. Je vous donne, il y a un petit dessin ici, on voit un ours, un gros plan sur la tête, le profil d'un ours et des petites fleurs, c'est joli.
Très stylisé.
C'est, ouais. Sa renommée n'est cependant venue qu'après sa mort, lorsque les médias en ont fait état. L'art a été le point de rencontre pour Sterling Gauthier. Non seulement a-t-il, par l'art, rencontré son ami Deb Cooper, mais il s'est aussi fait connaître dans les rues de la ville et dans les milieux itinérants et certaines galeries d'art. Il a aussi produit quelques œuvres pour Steven Tyler, le chanteur du groupe Aerosmith. Mm-hmm. Et c'est voilà la seule mention musicale de cet article. L'art permettait à Sterling Gauthier de s'évader, souligne Deb Cooper. À chaque visite au cimetière, elle insiste pour lui dire qu'elle l'aime et qu'il lui manque. Il aimait son art, il vivait pour lui. Et l'artiste avait 36 ans lorsqu'il s'est effondré dans un autobus d'Edmonton en janvier 2017 avant de rendre l'âme à l'hôpital. Deb Cooper tente aujourd'hui de rassembler 3 000 $ pour offrir une pierre tombale à son ami. Elle veut ainsi offrir un repos digne à un artiste qui a passé sa vie en marge de la société. Et malheureusement, on ne mentionne pas s'il y a un crowd, un Enfin, financement socio-participatif.
Socio, ouais, je cherchais le mot aussi, socio-financement.
Ah, si jamais on voulait nous-mêmes participer.
Ouais, parce que ça a l'air de rien comme ça, mais je pense que l'achat d'une pierre tombale, c'est assez dispendieux.
Ben, c'est ça,
pas seulement la pierre elle-même.
Elle essaie de rassembler 3 000. De toute évidence, il y a eu quand même quelqu'un qui a réussi à payer pour la sépulture en tant que telle. Mais voilà. Alors, ben, si jamais vous êtes à Edmonton, essayez de trouver Deb Cooper et... Que signifie « Made in Canada » pour vous? Bon, c'est peut-être
principe...
un peu différent au Québec, là, mais est-ce que ça vous donne envie d'acheter le produit?
Je sais qu'il y a une controverse là-dessus parce que souvent, c'est plutôt des importateurs canadiens qui...
Ouais, des fois, c'est fait « Made partiellement in Canada », mais là, c'est pas de ça qu'on parle, mais plutôt vraiment de la perception d'un produit
fabriqué
selon d'où
Canada,
il vient. Alors, la réputation d'un pays existe chez chacun d'entre nous, même inconsciemment. Il suffit de faire l'exercice avec du sirop d'érable, par exemple. Le fait qu'il provienne d'ici ou de Chine suscitera des émotions diverses chez le consommateur, évidemment.
Du sirop d'érable en Chine?
Ben, ça a l'air. Alors, c'est clair qu'on ne goûtera jamais au sirop d'érable de la Chine. On a le meilleur ici. Alors, ça, c'est un exemple. Donc, et a fortiori, ces perceptions auront un impact déterminant sur la réussite de produits à l'international. Mmh. Statista a ainsi réalisé une sorte de bulletin scolaire pour 52 pays à travers le monde en sondant plus de 43 000 personnes à propos des produits d'origine. Ce Made in Country Index, le MICI, rassemble plus de 129 000 évaluations et dans le classement, le Canada se retrouve en 6e position avec un score de 85. Donc, on est le 6e pays dont les produits sont les plus convoités. Devant l'Italie qui est 7e, la France 9e ou les États-Unis 10e. Alors, on est devant les États-Unis.
C'est quoi comme produit qui est le plus sirop d'érable?
Alors, ben, malheureusement, on ne dit pas ici, dans cette brève que j'ai ici, on nous parle du America First. Les produits les mieux perçus avec une étiquette fabriquée aux États-Unis sont les vêtements. Moi, j'aurais tendance à penser que les manteaux d'hiver là, qui viennent du Canada, le fameux Canada Goose. On en voit partout, mais je suis certaine que c'est très populaire à l'étranger. On nous dit ici, à titre de comparaison, les biens canadiens les plus convoités à l'exportation sont les voitures, comme pour l'Allemagne, qui trône en tête du MICI 2017. Oui, c'est l'Allemagne voiture. Qui est la plus... Ben, apparemment que si la voiture est faite au Canada, là, ça, on a une perception qu'elle est meilleure.
Il y a des constructeurs automobiles qui font fabriquer les autos ici, en Ontario, je pense, beaucoup.
Oui, ben c'est ça, c'est pas des voitures, c'est des marques américaines,
ou des marques japonaises,
mais des usines, c'est ça, qui sont fabriquées ici. Alors, sont quand même made in Canada, même si elles sont conceived ou comment dire ça, conçues en tout cas engineered ailleurs. Ben c'est ça, on est quand même sixième, là, c'est pas.
On parle donc de fabrication, là, et non pas conception, tout ça.
Alors, je pense qu'on pourrait dire que l'America est pas si great again que ça. Et c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on retrouve notre ami Serge.
Oui,
alors, ça sera un petit peu plus animé, mais c'était
Merci.
Très intime. Non, on était bien. Non. C'était quand même très animé. On parle de choses intéressantes, on essaie. Alors, merci beaucoup, Daniel Lachance.
Merci
Jean-Sébastien La Liberté, à la mise en onde, à beaucoup de choix musicaux et à la prononciation des mots étrangers. Merci. Et moi aussi, Isabelle Falardeau, je vous dis à la semaine prochaine.